VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du lundi 25 février 2019, en direct de Washington, Eric Manilakiza. D'abord, le sommaire. Au Sénégal, le camp Macky Sall revendique la victoire au premier tour de la présidentielle d'hier. RDC, décès d'Antoine Gizenga, ancien premier ministre et compagnon de Patrice Lumumba. Sommet au Niger pour contenir le changement climatique dans le Sahel. Préparatifs et négociations à Hanoï. Avant le sommet Kim-Trump, le dirigeant nord-coréen est déjà en route vers la capitale du Vietnam. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou et à Hollywood. L'Oscar de la meilleure actrice décerné à la Britannique Olivia Colman pour sa performance dans La Favorite. Et dans 10 minutes, votre page d'espoir et l'actualité économique. Pour l'instant, le journal. Même la proclamation des résultats provisoires attendus cette semaine sur la présidentielle de ce 24 février au Sénégal, le Premier ministre Mahamad Boune Abdallah Dione a annoncé la victoire au premier tour du président sortant Macky Sall. Il dit s'appuyer sur les résultats provisoires déjà collectés, des résultats qui, selon lui, donnent Macky Sall vainqueur dans 13 des 14 régions du Sénégal. Cependant, Idrissa Seck et Ousmane Sonko, deux principaux rivaux de Macky Sall, disent qu'aucun candidat ne peut se proclamer vainqueur de l'élection présidentielle dans l'état actuel du dépouillement des suffrages exprimés. La correspondance de Seydina Bagay depuis Dakar.
Tout a commencé avec la déclaration du Premier ministre Mahamad Boune Abdallah Dione donnant la victoire au président sortant Macky Sall.
Les résultats compilés nous disent aujourd'hui qu'il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection au premier tour. Aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à un minimum de 57% pour le candidat, le président Macky Sall.
Pour l'opposition, il est impossible que le président sortant recueille autant de suffrages. C'est ce qu'affirme Abdourahmane Diouf, porte-parole du candidat Idrissa Seck.
Les résultats que nous avons cumulés de tous les candidats de l'opposition donnent, dans une hypothèse haute, 44% au candidat Macky Sall, 39% dans une hypothèse basse.
En attendant les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome Sénat, la majorité présidentielle se dit victorieuse dès le premier tour, alors que l'opposition, elle, soutient qu'il y aura forcément un second tour. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Nous reviendrons sur les leçons à tirer de ce scrutin fortement disputé. Ibrahima Kan sera l'invité de Abdourahmane Dia. L'ex-président du Ghana, John Mahama, sera le candidat du principal parti d'opposition à la présidentielle de 2020. Il a remporté une victoire écrasante aux primaires du Congrès national démocratique. Il avait été élu en 2012, mais battu en 2016 par l'actuel Nana Akufo-Addo sur fond d'accusations de corruption et d'une économie défaillante. Il a appelé les militants à l'union pour retourner au pouvoir. RDC, Antoine Gizenga n'est plus proche collaborateur de Patrice Emery Lumumba, ex-premier ministre de Joseph Kabila. Monsieur Gizenga s'est éteint hier à Kinshasa à l'âge de 94 ans. Il aura occupé la scène politique congolaise pendant près de 60 ans. À son actif, le parti Lumumbiste unifié, l'un des premiers et plus vieilles formations politiques du pays. De Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
Né le 5 octobre 1925, Antoine Gizenga Fundji fut l'un des proches de Patrice Emery Lumumba. Vice-premier ministre en 1960 au lendemain de l'indépendance, puis premier ministre d'une rébellion à Stanleyville, aujourd'hui Kisangani, il crée le parti Lumumbiste unifié, son propre parti politique, en 1964 après sa sortie de prison. Il est ensuite contraint à l'exil de 1965 en 1992. Candidat de son parti à l'élection présidentielle de 2006, il termine troisième au premier tour avec 13,6% derrière Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Au second tour, il décide de soutenir Joseph Kabila qui le nommera ensuite premier ministre. Gizenga démissionnera de ce poste 2 ans après, soit en 2008, évoquant le poids de l'âge. Malgré cela, il a gardé jusqu'à sa mort la mainmise sur son parti, le PALU, qui est resté allié de l'ancien président Joseph Kabila. Décédé à 94 ans, Antoine Gizenga Fundji, c'est près de 60 ans de vie politique en RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est parti du Maroc hier vers le Gabon. Il est en convalescence au Maroc et absent de son pays depuis 4 mois. Mais la présidence gabonaise n'a pas souhaité confirmer le retour d'Ali Bongo. D'après la presse locale, le nouveau premier ministre Julien Kongé Bekele devrait faire son discours de politique générale devant l'Assemblée demain mardi. Il s'agit de son second retour au pays, le second retour donc d'Ali Bongo depuis son AVC le 24 octobre en Arabie Saoudite et n'a fait aucune apparition publique. À la mi-janvier, il avait fait un passage de moins de 24 heures à Libreville pour assister à la prestation de serment du nouveau gouvernement. Très peu d'informations filtrent sur le président gabonais et son état de santé. Le Niger abrite aujourd'hui un sommet des chefs d'État africains sur le climat. C'est la rencontre de la commission climat pour la région du Sahel mise en place en 2016 au Maroc. Un plan d'investissement sur 12 ans doit être adopté pour faire face au changement climatique. De Niamey, les précisions de Abdelrazak Idrissa.
Au cours de la rencontre d'une journée, les chefs d'État vont essentiellement adopter le plan d'investissement climat chiffré à environ 400 milliards de dollars américains pour la période 2018-2030.
Les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation vont connaître donc du rapport du plan d'investissement climat qu'ils vont adopter et qui est assorti d'un programme prioritaire pour impulser les investissements climatiques dans la région du Sahel en vue d'anticiper sur les interventions puisque c'est une œuvre de longue haleine.
Le plan prévoit un programme d'investissement prioritaire dont le financement sera demandé demain au cours d'une rencontre des bailleurs. La commission climat pour la région du Sahel a été mise en place à la COP22 tenue au Maroc où les États africains se sont engagés à travailler de façon concrète et concertée sur le terrain dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le pape François a promis hier une lutte à tous les niveaux contre les abus sexuels sur mineurs qui doivent plus jamais être dissimulés. Aucun abus ne doit jamais être couvert, comme ce fut le cas par le passé et sous-évalué, a déclaré François. Il s'agit de crimes abominables qui doivent disparaître de la face de la terre, a-t-il décrit en lançant un appel pressant pour la lutte à tous les niveaux contre les abus sur mineurs. Le pape argentin a comparé les victimes d'agressions sexuelles aux êtres humains soumis au sacrifice de rites païens et il a beaucoup insisté sur les dérives d'un clergé devenant un instrument de Satan, une figure importante dans la mystique du pape pour parler du mal.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Rencontre cette semaine entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un, le leader nord-coréen, déjà en route. Lionel Gahima.
Kim Jong-un est accompagné dans son long périple ferroviaire de son bras droit, le général Kim Yong-chol, qui a rencontré Donald Trump le mois dernier à la Maison-Blanche, ainsi que sa sœur et conseillère Kim Yong-jong et d'autres proches collaborateurs, selon l'agence nord-coréenne de presse KCNA. Dans un commentaire incisif dimanche, KCNA a appelé Washington à saisir une occasion historique rare, réagissant au scepticisme exprimé dans les médias et au Congrès aux États-Unis sous l'absence de progrès depuis Singapour et les intentions réelles de Pyongyang de se débarrasser de son arsenal nucléaire. Selon Jeong-yu-tae de l'Institut d'études nord-coréennes à Séoul, prendre le train au lieu de l'avion chinois qu'il avait transporté à Singapour permet cette fois aux dirigeants nord-coréens de marquer son indépendance à l'endroit de Pékin. Plusieurs sources vietnamiennes ont indiqué en privé que Kim Jong-un arriverait au Vietnam par le train jusqu'à la gare de Dong Dang, frontalière de la Chine, avant de gagner Hanoï par la route à 170 km de distance. Cette route sera fermée mardi, ont annoncé les autorités vietnamiennes et des militaires sont déployés le long du parcours depuis samedi.
Crise humanitaire au Venezuela. 156 membres des forces de sécurité ont déserté et sont passés en Colombie depuis samedi. La tension internationale s'accroît sur le gouvernement de Nicolas Maduro. En dépit d'une interdiction judiciaire de sortie du pays, Juan Guaido, reconnu par 50 pays, est arrivé hier à Bogota en Colombie, où il doit participer à la réunion du groupe de Lima prévue dans la capitale colombienne aujourd'hui. Et le président Donald Trump s'est dit satisfait de l'évolution des négociations commerciales avec Pékin. Il a ainsi annoncé hier sur Twitter une prolongation de la trêve dans le conflit qui oppose les deux premières puissances économiques mondiales. L'actualité économique avec Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, la campagne principale de la saison cacaoyère 2018-2019 pourrait s'achever en mars sur un volume de 1,7 million de tonnes, soit 200 000 tonnes de plus que l'an dernier. La petite traite qui va d'avril à septembre devrait atteindre 550 000 tonnes de cacao, soit 50 000 tonnes de plus que l'année d'avant. La production globale devrait se chiffrer à 2,2 millions de tonnes de cacao. La Côte d'Ivoire fournit 40% de l'or brun de la planète. En 2018, la production de riz au Cameroun n'a pas pu excéder 300 000 tonnes alors que la demande nationale se situe à 600 000 tonnes, ce qui contraint le pays à importer du riz pour un montant annuel de 120 milliards de francs CFA. Le projet rizicole appuyé par le Japon promet toujours d'augmenter la production à 750 000 tonnes d'ici 2020. Le pays pourrait ainsi voir dans un an sa production passer du simple au double. Pour finir, le cuivre s'est envolé la semaine dernière sur le marché des échanges de métaux à Londres. Sa tonne a grimpé à 6 476,50 $, son plus haut niveau depuis 7 mois et demi. Les marchés espèrent qu'il y aura un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Les tensions entre ces deux pays affectent le marché des métaux de base, dont la Chine est le premier importateur.
Sans transition, Nanit, nous retrouvons Élisée pour votre actualité sportive. On ouvre avec le football et direction l'Europe. Manchester City a remporté la Coupe de la Ligue d'Angleterre.
Les Citizens ont battu en finale Chelsea 4-3, 0-0 après le temps réglementaire à Wembley, détenteur de l'édition 2018 de cette compétition. Manchester City conserve donc son titre et peut encore rêver d'un quadruplé en fin de saison.
On revient en Afrique, Élisée, avec la troisième journée de la Coupe de la Confédération. Et la renaissance de Berkane frappe fort.
Oui, suite à cette nette victoire, 4-2 sur la pelouse du Raja de Casablanca, tout simplement le tenant du titre grâce à un triplé de l'attaquant togolais Foudoulaba. Berkane, solide leader du groupe A avec 7 points devant Hassani Agadi, qui est venu à bout des Congolais de l'AS Otoho, victoire 2-1. Dans le groupe B, l'étoile du Sahel a dominé Enugu Rangers à source 2-1 après avoir été mené au score. Ce résultat permet à l'équipe entraînée par Roger Lemay de recoller au CS Faci qui a été tenu en échec par les Burkinabés de Salitas 0-0.
Et le Zamalek du Caire n'avance toujours pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Élisée?
Le monument égyptien qui fait du surplace et qui occupe toujours la dernière place du groupe D après son nouveau nul 1-1 face aux Angolais de Petro Atlético de Luanda. Le club du Caire n'a que 2 points, tandis que les Kenyans de Gor Mahia dominent toujours cette poule après leur victoire de 2-0 face aux Algériens de Naoussende. Enfin, dans le groupe C, ce sont les Zambiens de Nkana qui dominent grâce à leur succès 3-1 sur le dernier du groupe, les Ghanéens d'Asante Kotoko.
En Ligue des Champions, Constantine arrache le nul contre Ismaili.
Réintégré dans le groupe C, Ismaili a été contraint au partage des points à Alessandrie par le CS Constantine dans un match en retard comptant pour la troisième journée. Score 1-0. Ce point arraché permet aux Algériens de rejoindre le TP Mazembe en tête du groupe avec 7 points en attendant le match retour qu'ils vont jouer à domicile samedi prochain.
Le Mondial 2019 des moins de 20 ans en Pologne, le tirage au sort des groupes est connu. Il a eu lieu hier dimanche.
Oui, et les 4 pays africains qualifiés pour l'événement savent ce qui les attend au premier tour. Le Sénégal est tombé dans le groupe A avec la Pologne, pays organisateur, la Colombie et Tahiti. Le Nigeria se frottera au Qatar, à l'Ukraine et aux États-Unis dans le groupe D. Le Mali va affronter le Panama, la France et l'Arabie Saoudite dans le groupe E. Enfin, l'Afrique du Sud va retrouver le Portugal, la Corée du Sud et l'Argentine dans le groupe F.
Avant de nous quitter, Élisée, parlons du pays des mille et une collines. La première étape du tour du Rwanda hier dans les rues de Kigali, vous auriez compris qu'il s'agit bel et bien du cyclisme.
Tout à fait, avec un critérium de 112,5 km, 78 coureurs au départ, et c'est le jeune Italien Alessandro Fedeli qui s'est imposé devant l'Érythréen Jacob Debesay. Il prend du coup le maillot jaune en attendant la seconde étape prévue ce jour entre Kigali et Ouye, longue de 120 km. Et puis, basketball avec les qualifications pour le Mondial 2019 Zone Afrique qui ont pris fin hier en Côte d'Ivoire. L'enjeu, c'était les 2 derniers tickets qualificatifs qui sont allés au Sénégal et à la Côte d'Ivoire.
C'était votre page des sports. Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
avec vous, Eric Manilakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous revenons sur l'élection présidentielle au Sénégal. Le scrutin a connu une forte affluence devant les 15 000 bureaux de vote du pays et de la diaspora pour accorder un second mandat à Macky Sall ou lui trouver un successeur. Les résultats provisoires devraient être connus cette semaine, mais les premières tendances semblent confirmer un trio Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck. Quels enseignements tirés de ce scrutin? Abdelrahman Dia a posé la question à l'analyste politique Ibrahima Khan, qui a participé à l'émission spéciale consacrée hier à ce scrutin.
La première leçon qu'on tire de cette élection, c'est qu'on est dans une phase de transition politique. Il y a une génération qui va pratiquement céder le plateau pour une nouvelle génération qui arrive et qui est représentée par Sonko.
Ça, c'est s'il gagne les élections, voilà, n'est-ce pas?
Même s'il ne gagne pas, parce que de toute façon, s'il gagne ou s'il perd, il s'érigera en un pôle important de l'opposition et il est jeune et il a l'avenir devant lui. La deuxième leçon que l'on peut tirer, c'est que le PUR n'a vraiment pas reproduit les promesses des élections législatives. C'est un parti qui s'est totalement effondré, fait pratiquement entre 3 et 4%, alors que le PUR a, pendant l'élection législative passée, gagné un nombre important de députés.
Est-ce que cela veut dire que peut-être que les Sénégalais ne veulent pas d'un parti qui est associé d'une manière ou d'une autre à la religion?
Je ne peux pas trop m'avancer là-dessus. Parce que vous savez que le PUR est une émanation d'une structure religieuse, c'est vrai. Mais le PUR a, comment dirais-je encore, avait son électorat. Mais c'est cet électorat qui s'est effondré. Pour quelle raison? Ça, je pense que c'est dans les jours et les semaines à venir que l'on comprendra mieux. Et le troisième élément que je voudrais noter, c'est la percée de Macky Sall dans ce qui constituait les fiefs de l'opposition d'antan.
De Khalifa Sall aussi.
On a parlé de la ville, du quartier de Grand Yoff. Mais c'est toute la région de Dakar qui est tombée dans l'escarcelle de Macky Sall.
Ce qui est une surprise.
Ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps pour un président de la République en fonction ou bien même pour un parti au pouvoir en fonction depuis le PS.
Monsieur Khan, il y a un débat qui a été lancé sur la gestion des ressources naturelles. Le Sénégal sera bientôt un pays producteur, exportateur de pétrole et de gaz. Est-ce que cela a influé dans les débats?
Je dois avouer que le débat pendant la campagne était très pauvre, absolument pauvre. Il n'y a que justement Sonko qui essayait un tant soit peu d'animer les discussions avec des thèmes comme la sortie du franc CFA, le nationalisme économique et autres. Mais on n'a pas beaucoup parlé de la gestion des ressources naturelles. Or, c'est cette gestion des ressources naturelles qui va se poser pendant la gestion du prochain président.
L'analyste politique Ibrahima Khan à Dakar, il était au téléphone de Abdelrahman Dia.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
De Dakar, destination à Abidjan, Côte d'Ivoire, où une très forte communauté sénégalaise vivant dans ce géant économique de l'Afrique de l'Ouest s'est rendue aux urnes pour accomplir leur devoir citoyen. Georges Ibrahim Tonkara a suivi le déroulement du vote dans la commune de Trècheville.
Les Sénégalais de Côte d'Ivoire sont sortis en masse pour cette élection présidentielle. À Trècheville, dans le sud d'Abidjan, c'était la grande affluence au groupe scolaire Pont Félix Feboigny, transformé en lieu des votes. Ibrahim Dramé, représentant à Trècheville de la SENA, la Commission électorale nationale autonome.
Depuis ce matin, ça se déroule très bien, il n'y a pas de problème. C'est une satisfaction. Vous avez vu, il y en a qui viennent retirer leur carte d'identité parce qu'ils n'en avaient pas. Maintenant, ils profitent de l'occasion pour venir retirer ça ici, puis aller voter en même temps.
Les 5 candidats en lice pour cette présidentielle sont tous représentés dans ce centre des votes. Chérif Ibrahim, du candidat Ousmane Sonko.
Ça se passe très bien. Les opérations ont commencé à partir de 8h. Le matériel électoral était là avant. Tout s'est passé bien dans la clarté. Il n'y a pas de souci. On remercie aussi le ministère de l'Intérieur qui a mobilisé vraiment les forces de l'ordre pour maintenir l'ordre. La finance, elle est là. Les gens viennent, vraiment, ils participent aux élections. Il n'y a pas de problème sur la finance.
Le président de la communauté sénégalaise de Trècheville, Ousmane Camara, se félicite de la bonne organisation de ce scrutin.
Depuis le matin à 8h, les bureaux sont ouverts, le matériel était complet, les bulletins sont complets, les responsables des bureaux de vote, tout le monde était là, les représentants des partis, des différents candidats à la présidentielle, où tout le monde était là. Moi, je suis très satisfait parce que c'est notre devoir quand même de venir voter le président de la République, le président de tous les Sénégalais. Donc nous ne pouvions pas rester à la maison et puis et suivre le boycott ou bien autre chose.
La diaspora sénégalaise de Côte d'Ivoire attend du futur président qu'il renforce les gains obtenus sous les précédents pouvoirs. Ousmane Camara.
Qu'il augmente encore ce qu'il a fait pour la diaspora. Il a fait beaucoup puisque pour le moment, nous déplaçons pas aller au Sénégal pour faire nos cartes dentées. Nous le faisons ici à Abidjan. Nos passeports sont faits ici à Abidjan. Il y a eu aussi un fonds d'aide qu'ils ont envoyé 100 millions à nos femmes pour qu'elles fassent le travail ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits. Mais s'il peut encore augmenter, bon, tant mieux.
Khalilou Ndiaye est électeur. Qu'attend-il du futur président sénégalais?
En tout cas, les Sénégalais sont sortis massivement pour venir faire le devoir de vote. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de notre du futur président? Qu'il travaille sincèrement pas, parce qu'il y a des défis qui l'attendent. Le problème de l'emploi, les coûts sociaux, c'est ça seulement qui nous intéresse. En tout cas, sur le plan social, il doit mettre beaucoup d'efforts. Quoi.
Sur les 20 000 inscrits sur la liste électorale en Côte d'Ivoire, la commune de Trècheville compte à elle seule près de 3 000 électeurs. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Voilà, on quitte Trècheville en Côte d'Ivoire pour le Nigeria où le décompte des voix se poursuit après la présidentielle de samedi qui s'est déroulée globalement dans le calme. Les deux favoris, le président sortant Muhammadu Buhari et l'opposant Atiku Abubakar, revendiquent la victoire mais aucun résultat officiel n'a été annoncé. Retour sur cette journée électorale au Nigeria avec Gilbert Tamba depuis Abuja.
Dans le quartier de Douste Aladji, à la banlieue d'Abuja, la capitale fédérale, Christian Mwachuku, 51 ans, est arrivé au bureau de vote depuis 7h45 pour pouvoir voter à 8h, l'heure fixée par la CENI pour l'ouverture des bureaux de vote. Après avoir attendu pendant plus de 3 heures, il s'est dit déçu du retard observé pour le début des opérations de vote.
Je suis là depuis 7h45 pour voter, mais jusqu'ici je n'ai pas voté. On nous dit que les agents électoraux de la CENI ne sont pas encore prêts pour nous recevoir. Je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment déçu de rester ici tout ce temps et au moment même où je vous parle, j'ai faim. Donc il faut que j'aille manger.
Des dysfonctionnements ont toutefois été signalés par endroits, comme le retard de l'ouverture de certains bureaux de vote, l'absence de bulletins pour les législatives dans d'autres centres et des difficultés chez les électeurs de localiser leurs bureaux de vote. C'est le cas de Finis Amana.
Je ne sais pas comment je me sens parce que nous sommes là depuis 5h30 ce matin. Je cherche où se trouve mon bureau. Il faut que je trouve mon bureau car je veux voter. Je vais chercher quelqu'un qui pourra m'aider, mais je dois voter aujourd'hui. C'est pour cela que je suis venu.
Dans ces bureaux, plus de 6000 électeurs sont inscrits. Au total, plus de 72,8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dans plus de 120 000 bureaux de vote pour le premier tour des élections présidentielles et législatives. Kaliou Idiki vient de voter dans le bureau de vote de Maïtama, un quartier chic au centre-ville d'Abuja.
Honnêtement, ce n'est pas si difficile si vous êtes patient. Parce que toute personne qui cherche quelque chose de valeur doit être patiente. J'ai été patiente et j'ai voté. Oui, il y a quelques désordres, mais en tout cas, moi, j'ai voté dans la paix.
Électeurs, observateurs et agents électoraux sont unanimes sur un point. La journée du 23 février s'est plutôt bien déroulée dans la majorité des États du pays et à Abuja, la capitale fédérale. Quelques incidents ont été signalés dans les États de Lagos, la capitale économique, de l'état de Rivers dans le sud pétrolier et dans d'autres localités du pays. Selon les organisations de la société civile, plus d'une dizaine de personnes auraient perdu la vie. Pour la Commission électorale nationale indépendante, ces incidents ne sont pas de nature à entraver le processus électoral en cours. Aliou Bello est le porte-parole de la CENI.
La journée d'hier s'est bien passée. Il est vrai qu'il y a eu des incidents isolés, comme le retard dans l'ouverture des bureaux. Mais cela n'affecte pas le processus en général. Tout s'est bien déroulé, tout s'est déroulé de façon paisible.
Le dépouillement se poursuit encore et la compilation des résultats a déjà commencé. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Dans la page page culture avant de clore le monde aujourd'hui. La 26e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, bat son plein à Ouagadougou, dans le pays des hommes intègres. Cette édition, lancée samedi, marque le cinquantenaire du plus grand festival de films sur le continent. De Ouagadougou, les précisions de Lamine Traoré.
Le clap d'ouverture de la 26e édition du FESPACO a été donné par le président du Faso Rock Kabore au stade municipal, au centre de la capitale. Des sons et lumières, des rappels historiques émouvants. Marie-Agnès Dorgo, festivalière franco-burkinabé.
Je suis là pour ça, je suis cinéphile. Je pense ne pas rater un film. J'espère qu'il y aura des choses nouvelles. J'attends de voir du nouveau.
Le Rwanda est le pays invité d'honneur de ce FESPACO 2019 qui fête ses 50 ans. Cheikh Omar Sissoko, cinéaste malien et talon d'or de Yéné Gami 1995 et par ailleurs secrétaire général de la FEPACI, Fédération panafricaine des cinéastes.
Quand on a 50 ans, on a la moitié du siècle, ça veut dire qu'on a bien vécu. Et voir le monde qu'il y a ici, nous les cinéastes, nous considérons que c'est le plus bel événement culturel panafricain qui nous autorise d'exister, de nous rencontrer et de rencontrer nos populations. Pendant 50 ans, c'est unique.
Munira Sabadoué est comédienne et productrice burkinabé. Elle est présente avec un film à ses FESPACO en hors compétition.
J'ai produit un film et le titre c'est Pour un rien. Le film traite d'un thème qui est d'actualité. Ça parle de l'incivisme en fait. Ça parle d'une dame qui a été injustement tabassée. Depuis un certain temps, nous vivons un incivisme grandissant dans notre pays et un peu partout aussi d'ailleurs en Afrique.
Les responsables du FESPACO, eux, pensent avoir déjà réussi le pari de l'organisation. Yacouba Traoré, président du comité d'organisation.
Le scénario a été exécuté à la perfection et nous remercions Son Excellence Monsieur le Président du Faso dont la présence a rehaussé la cérémonie, son éclat. Je pense que ce n'est pas à moi d'apprécier, c'est au public d'apprécier. Nous, on devait donner quelque chose, on a tout donné, on n'a rien à regretter. Un peu plus dur, c'est les projections des films.
Durant donc une semaine, Ouagadougou sera la capitale du cinéma africain pour des milliers de festivaliers. Une vingtaine de films sont en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga, le prestigieux trophée. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Retour ici aux États-Unis, précisément à Hollywood, pour découvrir le rose triomphe sur le tapis rouge des Oscars. Olivia Colman a décroché l'Oscar de la meilleure actrice, comédienne à la trajectoire fulgurante. Olivia Colman a la particularité d'avoir déjà interprété deux reines sur les écrans, dont la souveraine britannique Elizabeth II. Hollywood récompense Olivia Colman pour son rôle dans le film La Favorite, où elle campe une reine, Anne d'Angleterre, à la santé fragile et au caractère instable, au cours d'une lutte de pouvoir entre sa conseillère et sa servante, interprétée par Rachel Weisz et Emma Stone. L'acteur américain Mahershala Ali a reçu l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour son interprétation du pianiste noir Donald Shelley dans le film Green Book sur les routes du Sud. Et c'est là.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Anne Albertson. Merci pour le suivi de l'actualité. Merci aussi à Jean-Roger Bion. Un grand merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Eric Mandirakiza vous souhaite une bonne journée.